Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Salut les fous du volant, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de votre podcast consacré à la Formule 1. Aujourd'hui, je suis associé à Julien Pereira qui a brillamment assuré la période de congé que nous nous sommes autorisés, Stéphane Brignot et moi-même. Merci Julien et bravo, j'ai écouté, c'était top.
Bah merci à vous, c'est un honneur moi d'être à votre place.
Oh là là, que de grands mots. Alors que Max Verstappen a remporté le Grand Prix de Miami poursuivant le règne sans partage de Red Bull, nous allons nous demander si la domination de l'équipe de Christian Horner peut poser problème à l'intérêt du championnat. On va aussi parler du week-end très compliqué des Ferrari, et tout particulièrement de Charles Leclerc après l'éclaircie de Bakou avec le premier podium de la saison pour le Monégasque. Charles Leclerc est sorti à deux reprises à Miami, et il a dû se contenter d'une modeste septième place. Est-ce qu'il y a un problème aussi pour Charles Leclerc ? On en parlera. Et puis évidemment, on reviendra sur ce véritable coup de semonce lancé par Laurent Rossi, le patron d'Alpine, qui a dénoncé un certain dilettantisme dans l'équipe franco-britannique et qui s'est montré même assez menaçant envers le dirigeant de l'équipe, Otmar Szafnauer. C'est au programme des Fous du Volant aujourd'hui. Ce podcast qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify, en passant par Acast ou par Apple Podcast. N'hésitez pas à vous abonner et aussi à nous donner des étoiles. Et puis si vous vous abonnez, ben, vous recevrez directement le nouvel épisode sur votre smartphone. On débute donc les Fous du Volant aujourd'hui avec cette question. La domination des Red Bull est-elle problématique ? Parce que on va faire un rapide constat, Julien, malgré un départ en 9e position, Max Verstappen s'est largement imposé au terme de cette 5e épreuve de l'année, très très vite, hein, c'est simple, 5 Grands Prix, 5 victoires pour Red Bull, 4 doublés sur les 5 épreuves et un total de 122 points d'avance sur Aston Martin, 2e au classement des constructeurs. Il y a beaucoup de gens qui nous disent « Oh là là, mais là, on lutte contre le sommeil pendant les courses. » Et pourtant, le vainqueur, Max Verstappen, est parti 9e. Alors, est-ce que c'est problématique, selon toi ?
Problématique, non. Parce que c'est la Formule 1, tout simplement. ce qui me poserait problème, c'est si l'équipe qui gagnait n'était pas la meilleure, si le pilote qui gagnait n'était pas le meilleur. Là, c'est la meilleure écurie qui gagne et c'est souvent le meilleur pilote qui gagne. Donc non, ça ne me pose pas problème et j'ai envie de vous dire, est-ce que ça posait problème en 2016 quand Mercedes avait offert une super saison avec ce duel Rosberg-Hamilton ? Est-ce que ça posait problème à l'ère de Prost-Senna aussi, où McLaren était bien seul sur cette période ? Non, puisque les aires de domination font partie de l'essence de la Formule 1. Red Bull est forte parce que Red Bull a tout simplement mieux travaillé que les autres. Et personnellement, ça me plaît de me dire que l'équipe qui travaille le mieux gagne, tout simplement.
Alors
ça s'appelle la méritocratie.
Exactement. C'est une problématique assez cyclique, hein, finalement, quand une équipe prend l'ascendant sur les autres. Ça a été le cas, tu le citais récemment, pour Mercedes, avec l'arrivée de l'ère hybride. C'est le cas, effectivement, pour Red Bull, à la fois l'année dernière et cette saison. Enfin, le début de l'année dernière, il y avait encore bataille avec Ferrari, et puis très très largement, très très rapidement, Red Bull a pris l'avantage. Regardez ces petites statistiques, ces records en tout cas, hein, cette avance de 122 points par rapport à Aston Martin. L'an passé, après 5 épreuves, Ferrari avait 6 petits points d'avance sur Red Bull, on le disait à l'instant. En 2021, Red Bull avait 1 point d'avance sur Mercedes, là c'était assez passionnant. Si on remonte un petit peu plus, en 2019, il y avait quasiment 100 points d'écart entre Mercedes et Ferrari. Et le deuxième chiffre le plus important, c'est 2014, Mercedes avait 113 points d'avance sur Red Bull après 5 Grands Prix.
Qui était d'ailleurs le début de l'ère hybride, une nouvelle ère comme un petit peu en ce moment.
Un petit peu effectivement comme on est en ce moment. C'est 122 points finalement à compenser parce qu'il y a les points aussi de la course sprint de Bakou. Si on enlève ces points et si on enlève les points des meilleurs tours aussi réalisés par les pilotes Red Bull, on serait à moins que les 113 points de Mercedes d'avance par rapport à Red Bull en 2014. Et tu le disais, il ne faut pas en vouloir à Red Bull d'avoir mieux travaillé que les autres. En fait, ce qui est un petit peu embêtant, c'est que Red Bull est monté en puissance pendant que Ferrari et Mercedes, eux, plongeaient du nez, clairement, et c'est ce qui fait cet écart abyssal. Maintenant, est-ce qu'il y a des raisons de croire que la domination peut se réduire? J'ai envie de dire, il y a quand même une pénalité en temps de soufflerie et en budget pour Red Bull qui, à un moment donné, risque de ralentir un petit peu les hommes de Christian Horner. Tu y crois à ça ou pas?
Oui, j'y crois. En revanche, j'ai un doute sur la temporalité. Est-ce que ce sera cette saison? Je ne suis pas certain au vu de l'avance de Red Bull en termes de technique, en termes de performance. Peut-être plus sûrement la saison prochaine. Et puis, il y a aussi quelque chose qu'il faut prendre en considération, c'est que Mercedes et Ferrari ont toujours pas compris véritablement leur monoplace et que si elles sont aussi loin de Red Bull, c'est en grande partie à cause de ça. J'ai quand même tendance à penser que notamment Mercedes, peut-être Mercedes avant Ferrari, va finir par comprendre sa monoplace, va finir par trouver des solutions et donc réduire aussi un petit peu cet écart.
On verra, là, on est peut-être carrément en train de décider une énième fois de changer carrément fait. Le concept hein, chez Mercedes.
Oui,
on peut se retrouver avec une Mercedes totalement différente très vite.
Dès Imola d'ailleurs, exactement. Dès le prochain Grand Prix.
C'est un serpent de mer hein, cette histoire.
C'est un serpent de mer, on l'avait déjà évoqué en début de saison. Mais oui, il y a des signaux qui sont encourageants sur ce plan-là, même si encore une fois, pour moi, ce n'est pas problématique. Et puis, il faut aussi se dire qu'on n'aura pas des saisons comme la saison 2021 tous les ans. Parce que d'une, ce n'est pas l'histoire de la Formule 1, et que deux, ce n'est même pas souhaitable. Si on avait des saisons comme celle-ci tous les ans, bah, peut-être que la dimension historique mémorable de ce duel s'effacerait complètement. Ce n'est pas le sport, ce n'est pas du spectacle, ce n'est pas forcément du spectacle.
Ça rejoint d'autres débats qu'on a eus,
tout à fait.
Avec notamment la suppression des essais libres et ce genre de choses.
Peut-être que l'hégémonie, enfin la domination en tout cas, ce n'est pas encore une hégémonie, la domination de Red Bull, pose problème aux promoteurs de la Formule 1 parce que eux ils ont véritablement un produit, c'est leur nom fétiche à vendre, à exploiter pour aller chercher d'autres publics. Évidemment, c'est ce qu'on voit actuellement, c'est pas la meilleure pub pour la F1, mais encore une fois tout ça va changer, tout ça fait partie de l'histoire de la Formule 1 et on a entendu des voix certaines voix importantes d'ailleurs, notamment celle de Toto Wolff pour pas citer, qui disait que finalement, le plus souhaitable, ce serait peut-être un nouveau changement de réglementation pour, entre guillemets, remettre les compteurs à zéro et espérer voir plus de bagarres. Mais en fait, c'est tout le contraire.
Oui, c'est sûr.
C'est tout le contraire. Pour qu'une écurie se remette au niveau de l'écurie qui domine, il faut lui laisser le temps. Et d'ailleurs, la saison 2021, puisqu'on en parlait, c'est le très bon exemple. Red Bull a réussi à se remettre au niveau de Mercedes après des années de domination de l'écurie allemande parce qu'elle a pris le temps et qu'elle a réussi à progresser sur ce temps-là. Et je pense que, justement, le plafond budgétaire va accélérer ça. Je pense qu'on n'aura plus des périodes aussi longues de domination, justement parce que j'ose espérer que le plafond budgétaire va jouer un rôle là-dessus.
Alors, j'ai un tout petit doute, moi, là-dessus, sur le plafond budgétaire, parce que, en fait, quand tu as un Adrian Newey, en face, il faut éventuellement plusieurs ingénieurs pour arriver à développer autant d'intelligence que le génie de chez Red Bull. Et c'est un petit peu toute la problématique, c'est qu'on parlait de Ferrari et de Mercedes. Red Bull a évidemment un génie en la personne d'Adrian Newey qui a conçu cette voiture. Et en plus, il y a la stabilité. Chez Red Bull, on a gardé les mêmes pilotes, on a gardé la même structure technique, alors qu'il y a eu quand même des gros chamboulements chez Ferrari. On a changé le patron, c'est Fred Vasseur qui est arrivé. Toto Wolff, au moment où il allait partir, finalement, il est resté. C'est James Wolff qui est parti. Et encore, là, James Ellison qui revient. Enfin, il y a un manque de stabilité chez les adversaires. Et au final, ça travaille mieux chez Red Bull. Et on continue, on ne change pas une équipe qui gagne, tu me diras. Donc, c'est assez logique. Et je crois que ça ne va pas changer. Pour autant, il faut effectivement accepter que la F1 étant un sport technologique, par moment, il y a une équipe qui prend l'ascendant sur les autres. Il y a quand même un point. Moi, j'ai rien à vendre hein, par rapport à la Formule 1, mais il y a quand même un point qu'il n'y avait pas ces dernières saisons, c'est que potentiellement, il y a une bagarre interne qui se profile à l'horizon chez Red Bull. Alors là, Checo Pérez, il a quand même pris un sacré coup derrière la cabeça parce que à Miami, clairement, il était un ton en dessous par rapport à Max Verstappen. Mais au départ du Grand Prix, il était quand même, il était virtuellement leader du classement des pilotes. Et je crois que ça déplaît pas tout à fait à Red Bull d'avoir une sorte de contre-feu à Max Verstappen parce que ça permet de sortir un petit peu du Verstappen Racing et de pouvoir donner quand même un petit peu le change aux Néerlandais. Combien de temps ça va durer? Est-ce que Checo va pouvoir continuer à donner la réplique? Pour l'instant, il y a 3-2 hein, entre Verstappen et Checo Pérez. Il y a peut-être là aussi quelque chose d'intéressant à voir évoluer tout au long de cette saison.
Je suis d'accord. J'ai juste peur que les bas, comme celui qu'a connu Pérez à Miami, soient beaucoup plus nombreux que ceux de Verstappen et aussi beaucoup plus grands. Parce que finalement, Verstappen à Bakou, c'était quasiment un bas.
Oui.
Sauf qu'il n'était pas très loin de Pérez.
Ouais.
Là, ça a été beaucoup plus compliqué pour le Mexicain. Et j'ai peur que sur la durée d'une saison qui, en plus, est très longue, où il va y avoir aussi des courses sprint, ça creuse l'écart petit à petit en faveur de Verstappen. Mais pour revenir à ce que tu disais, ceux qui aiment vraiment la F1 sont aussi capables d'apprécier ce que réalise Adrian Newey avec ce nouveau règlement, ce que réalise Verstappen aussi, qui est quasiment au sommet de son art depuis 3 ans. C'est aussi ça, la Formule 1, c'est apprécier
le travail bien fait.
Les choses qui sont très bien réalisées, sans qu'il y ait forcément une bagarre entre deux écuries différentes, deux pilotes de deux écuries différentes.
Compter que la bagarre du midfield, elle vaut quand même son pesant d'or aussi, parce que c'est très très serré dans cette zone-là. Là, c'est vraiment très compliqué. On a vu en plus le réveil de Magnussen. Enfin, il y a des choses intéressantes qui se passent. Faut regarder ailleurs. Faut être malin. C'est pas il y a pas 5-0. C'est ce qu'on disait après quand il y a eu la conclusion du Grand Prix d'Australie où la FIA a voulu absolument relancer la course. Parfois, une course, ça se termine de manière un petit peu frustrante. Bah là aussi, il y a une part de frustration parce qu'il y a pas 3 équipes qui se bagarrent pour chaque victoire. Mais il faut savoir aller chercher dans les détails.
Et en plus, à Miami, on a eu le très bon exemple. Il n'y a pas eu de drapeau jaune, il n'y a pas eu de voiture de sécurité, il n'y a pas eu d'abandon. Donc, on a eu une course, entre guillemets, normale.
Et voilà, avec un résultat sportif...
normal, tout à fait.
Exactement. En tout cas, qui révèle un petit peu l'étendue des forces en présence. Donc, on conclut. Pour nous, ce n'est pas problématique la domination de Red Bull. Voilà. Ouais. Comme ça, vous savez ce qu'on en pense. On va maintenant parler dans les fous du volant de Charles Leclerc, parce qu'il y avait eu cette embellie magnifique du Grand Prix d'Azerbaïdjan avec la pole position pour le Monégasque et puis ce premier podium de la saison pour Ferrari. Et puis ça s'est de nouveau compliqué à Miami, alors que honnêtement, on attendait tellement mieux avec un nouveau plancher qui était arrivé dans l'équipe de Fred Vasseur. On se disait, allez, l'écart va se réduire, au moins en qualification, peut-être de nouveau partir de la pole position, et avec la typologie du circuit, peut-être qu'il va y avoir encore mieux à jouer. Sauf que, pour Charles Leclerc, la Floride, ça a fait 2 hicks à Miami. Je l'ai placé.
Tu as réussi à la placer.
Voilà, ceux qui sont nés dans les années 80 auront peut-être un petit peu de mal à comprendre, mais 2 sorties de piste pour Charles Leclerc, une en essai libre 2, une en qualification. Ça a ruiné le week-end de Charles Leclerc, qui au final va chercher une 7e place. Et surtout, ce qui est inquiétant, c'est les dires à la fois de Charles Leclerc et de son coéquipier Carlos Sainz. Les deux disent, la voiture, quand on approche des limites, elle devient imprévisible, pour pas dire inconduisible. Si on se concentre sur Charles Leclerc, est-ce qu'il y a un problème pour toi en ce moment pour le Monégasque?
Disons que ça commence à faire beaucoup. Ça fait 2 crashs en une journée,
en un week-end.
Si on reprend sur 2-3 saisons, si on revient 2-3 saisons en arrière, on en a quand même beaucoup. On vous en a répertorié quelques-uns. D'ailleurs, c'est une liste non exhaustive, mais globalement, c'est les plus marquants. Il y a eu donc cet accrochage en Australie. Alors là, c'est pas tout à fait un crash, mais c'est pas une erreur de pilotage, c'est plutôt une erreur de jugement.
Oui.
Il y a eu des crashs l'année dernière en Mexique, en France, à Imola, en Arabie Saoudite en 2021, Bakou 2021, on s'en souvient aussi, et puis Monaco évidemment, où il avait réussi à décrocher la pole, mais ça avait compromis son week-end puisqu'il avait dû abandonner le dimanche à cause de ce crash-là justement. Pour un pilote qui est l'un des meilleurs pilotes du plateau, qui est l'un des meilleurs de sa génération et qui est un pilote Ferrari, ça fait beaucoup. C'est franchement pas commun dans l'histoire de la Scuderia. Et oui, il va falloir que ça change, parce qu'au bout d'un moment, ça va finir par être rédhibitoire, vraiment.
En fait, moi, ça me pose problème pour lui, dans le sens où on a deux approches. On a celle, finalement, de Carlos Sainz, qui semble avoir fait un petit peu le deuil de ses ambitions, au moins pour 2023, qui se contente de ce que la voiture peut lui offrir. Alors quand je dis ça, on voit bien qu'il se bagarre, hein, l'Espagnol, avec son auto, mais en tout cas qu'il ne va pas essayer d'aller chercher plus que ce que la voiture peut donner. Et on a de l'autre côté un Charles Leclerc qui est un petit peu héroïque quand même, dans ce sens où si la voiture vaut 1,30 au tour, lui va essayer de faire une 29,5 parce que c'est dans son tempérament et que ça se traduit régulièrement. Et là, j'ai envie de dire, j'ai presque le sentiment que ça s'accélère de plus en plus régulièrement par des sorties de piste. Ça peut poser problème aussi à la fin, parce que là, moi, je suis à peu près persuadé que la voiture qu'il a pilotée pendant le Grand Prix n'était pas au niveau de rendement d'avant son crash en qualif, que quelque chose était endommagé, mais comme les voitures sont sous le parc fermé, on peut pas tout changer. Et je pense qu'il a payé sa sortie de piste, non seulement par sa place sur la grille, mais aussi par le rendement de la voiture. On avait évoqué...
D'ailleurs, je te coupe juste, il l'a évoqué justement après la course en disant que la voiture n'était pas bonne, mais là il avait vraiment l'impression que quelque chose ne tournait pas rond dans sa voiture. Et quand on voit ce qui s'est passé avec Magnussen en début de course, on se dit quand même qu'effectivement, même s'il y a une perte de confiance, ça fait beaucoup quand même.
Non, clairement. Donc là, on a vraiment un vrai souci, mais tu parles de la perte de confiance. Il y a un moment où il faut aller... Alors, c'est un pilote de Formule 1, il sait se remettre en question, il sait expliquer ses erreurs. Là, on a vu la voiture beaucoup taper le sol, et forcément, quand vous êtes dans les courbes et que la voiture tape le sol, ça fait moins d'appui sur les roues, donc elle vous échappe. Le seul problème, c'est comment est-ce qu'on fait avancer cette voiture si on a autant de sorties de piste et si finalement on n'arrive pas à faire la distance pour essayer de valider un petit peu les évolutions. Il y avait déjà une première évolution qui était le plancher. On a aussi modifié l'extracteur, c'est logique, hein, tout ça, ça doit travailler ensemble sur la voiture. Et comment valider tout ça si on fait ensuite le Grand Prix avec une voiture qui est endommagée? Je pense qu'il y a aussi un autre problème chez Ferrari. Il y a un problème de corrélation. On sait que les Formule 1 maintenant sont essentiellement développées en simulateur. Et j'ai le sentiment qu'en ce moment, et il y a beaucoup d'équipes qui sont dans ce cas-là, et c'est peut-être la grosse différence avec Red Bull, on ne retrouve pas sur la piste ce que disent les simulateurs. Et je reviens un peu à la différence entre Carlos Sainz et Charles Leclerc. Carlos Sainz finalement dit la voiture ne peut pas plus que ça. Et Charles, lui, veut aller chercher davantage. On en avait parlé il y a quelques temps de ce syndrome du sauveur pour Charles Leclerc, qui veut essayer vraiment de... on sent qu'il y a une énergie particulière chez ce garçon. C'est peut-être ça que Fred Vasseur va devoir essayer de gérer un petit peu avec son pilote.
Ouais, je suis totalement d'accord avec ça. Il y a quelque chose qui est inquantifiable, c'est la personnalité d'un pilote. Et le seul qui réussissait à la quantifier, c'est Enzo Ferrari, qui lui classait très bien les pilotes qui étaient un petit peu hors du commun à ses yeux. Et on a tous tendance à penser que s'il était encore là, Leclerc ferait partie de cette catégorie-là.
Ouais, clairement.
On sent vraiment qu'il est investi d'un poids, parce qu'il y a aussi la durée, le nombre d'années sans titre de Ferrari. On sent qu'il a investi d'une mission. Et on sent aussi que ce poids-là commence à peser, parce qu'il y a aussi une forme d'impatience chez ce pilote-là. Leclerc, il a 25 ans. Il sait qu'il a a priori toutes les armes pour être champion du monde. Il voit un pilote qu'il a connu quand il avait 5 ans et demi et qu'il a même battu plusieurs fois en karting être champion du monde et l'être a priori pour au moins
quelques
une fois
années,
de plus,
ouais.
voire quelques années. Il sait que la carrière d'un pilote de Formule 1, elle n'est pas extensible, sauf quand on s'appelle Fernando Alonso, mais il y a un autre contre-exemple qui s'appelle Daniel Ricciardo, qui lui n'a jamais été champion du monde alors qu'on lui prédisait vraiment un très bel avenir. Donc tout ça crée de l'impatience. Leclerc est venu chez Ferrari, il s'est imposé comme un numéro 1 alors qu'il avait Vettel de l'autre côté du box. Il a connu, presque tout connu avec Ferrari, parce que Ferrari est reparti très bas après la sanction de la FIA pour les soupçons de tricherie. Donc il se dit qu'il faut accélérer, et peut-être que ça a inconsciemment ou consciemment un impact sur son pilotage, parce qu'il le dit lui-même, l'erreur qu'il fait en qualification, il l'a fait la veille et il n'a pas le droit de la faire deux fois. Et c'est aussi le rôle d'un pilote de savoir trouver la limite. Et effectivement, si cette voiture-là, cette Ferrari, n'est pas pilotable entre guillemets à 100%, bah, il faut savoir la piloter à 97 ou 98%. Et Sainz est plutôt dans ces eaux-là. Leclerc est plutôt à 101, 102%.
Enfin, c'est facile à dire hein, quand on est, comme ça en début de semaine suivant un Grand Prix. Mais on imagine bien hein, cette énergie qui anime le Monégasque. Qu'est-ce que ça veut dire du côté de chez Ferrari? Est-ce qu'il faut lui dire « roule moins vite » C'est compliqué à un moment. Comment tu fais comprendre parce qu'il va y avoir aussi à chaque fois qu'il y a des sorties de piste, alors là pour l'instant il n'a pas lourdement endommagé la voiture, mais il y a un moment où l'addition va commencer à poser des soucis sur le budget cap.
Oui, bah, je pense que ça pèse déjà son poids dans le budget cap, parce que toutes les écuries de pointe et même d'autres, on va y venir juste après, sont au plafond budgétaire, et donc l'argent que vous utilisez pour réparer les voitures, c'est de l'argent que vous ne mettrez pas ailleurs. Donc ça handicape. Sur ta première question, Fred Vasseur y a déjà répondu samedi au micro de Sky Sport. On vous l'a mis à l'écran. Il a défendu complètement son pilote en disant quand tu te bats pour la pole, tu dois pousser. On ne peut jamais dire qu'il a trop poussé. Mieux vaut quelqu'un qui pousse beaucoup plutôt que de dire à l'issue d'une qualification, tu aurais pu pousser plus fort. Voilà, on est totalement dans le thème. On est totalement dans ce qu'on disait juste avant.
Tout en ayant reconnu que Ferrari avait fait un pas en arrière par rapport à Bakou. Hein. Ça a été un des autres thèmes abordés par Fred Vasseur.
Oui, parce que tu l'as aussi évoqué. Faut aussi tenir compte de la responsabilité de la monoplace qui talonne énormément. Et on l'a très bien vu sur son crash de qualification. La voiture tape très violemment le sol avant que Leclerc ne perde l'arrière. Donc, oui, il aurait pu faire autrement, mais peut-être qu'avec une Red Bull, ça ne lui serait même pas arrivé. Donc voilà, la responsabilité est partagée, mais c'est aussi au pilote d'avoir ce jugement-là, tout simplement.
Ça me fait penser au propos que tient le manager d'un pilote moto que je connais bien. Je ne vais pas les citer parce que je
sais. Vas-y, pas je vais essayer de retrouver.
S'ils apprécieraient. Pour lutter justement contre cette envie à chaque fois de surcompenser quand une équipe est en difficulté, il y a un manager qui dit régulièrement à son pilote « Tiens, dis donc, en partant en piste, n'oublie pas de laisser ton costume de Superman dans le box. » Et finalement, c'est peut-être ce qu'il faudrait dire en ce moment à Charles Leclerc, quoi. C'est pas un super-héros, c'est un immense pilote qui a un talent qui est au moins incomparable à celui de Max Verstappen et à celui des tout meilleurs pilotes. Mais il y a un moment où il y a une limite physique qui est celle de la voiture. On sait qu'il y a des pilotes qui font gagner du temps à la voiture. Il en fait partie. Et il y a un moment où il faut savoir peut-être un petit peu mieux jauger, savoir où on met le curseur. Et je trouve cette image, voilà, enlève ton déguisement de Superman.
C'est totalement ça.
Juste roule. Et il faut trouver ce juste milieu.
Surtout que, alors c'est triste à dire, mais il n'y aura pas de titre pour Leclerc cette saison.
A priori, non.
Et donc il a plus à gagner qu'à essayer de construire quelque chose sur le long terme, essayer de trouver des solutions pour améliorer cette monoplace. Peut-être quitte à en mettre un petit peu moins, c'est ce qu'on disait.
Ça, regagner en confiance petit à petit, parce que là, le problème, c'est qu'on va à Imola, la prochaine course. Donc là, il y a eu, c'est étrange hein, comment s'est fait les choses, mais il y a eu une séquence où il y a eu 4 semaines d'attente, où tous les pilotes, on le voyait bien, étaient gonflés à bloc, avaient vraiment envie de donner tout ce qu'ils pouvaient. Et finalement, Charles Leclerc, même si il a fait une erreur aussi à Bakou, a quand même répondu parfaitement présent avec cette pole, avec ces deux courses où, il l'a dit lui-même, on ne pouvait pas obtenir mieux. Et derrière, ça s'enchaîne. Donc, il reste sur cette énergie positive, sauf que ça lui pète un petit peu au nez, et ça arrive avant Imola, où il y a traditionnellement quand même une pression très, très particulière des tifosi en terre italienne. Ça aussi, ça va être un élément à gérer.
Oui, et bah d'ailleurs, ce sera un très bon test pour voir si Leclerc a réussi à prendre du recul sur tout ça et sur ses performances, parce que Vasseur l'a défendu, il a quand même pas caché qu'il était affecté, et Nicolas Todd, au micro de Canal+, l'a aussi dit que psychologiquement, c'était un petit peu dur.
Ouais.
Donc, on va voir comment il va gérer avec toute l'attente des tifosi la semaine prochaine.
Ouais. Charles Leclerc qui se présentera donc à Imola à la 7e place du classement des pilotes avec un total de 34 points. À titre de comparaison, on rappelle que Carlos Sainz, lui, est deux places plus haut, 44 points pour l'Espagnol. À la 5e position, il y a deux approches un petit peu différentes.
Tout à fait.
Et pour l'instant, c'est à l'avantage de Carlos Sainz. On surveillera ça de très très près. Alors, on va attaquer le gros. Et là, attention, parce que il va y avoir quand même un contexte un petit peu particulier dans cette troisième partie des fous du volant aujourd'hui. On va revenir sur le coup de gueule, le coup de semonce de Laurent Rossi, le patron de l'équipe Alpine, donc au soir du Grand Prix de Miami, au cours duquel Pierre Gasly a terminé 8e et Esteban Ocon a terminé 9e. Avec ces résultats, Alpine est revenu à la hauteur de McLaren à la 5e place ex aequo du classement des constructeurs, 14 points pour Alpine et pour McLaren. Et Laurent Rossi, qui était à Miami avec Luca de Meo.
Ce qui est déjà une indication.
Oui, voilà. C'est un petit peu lâché auprès de nos confrères du site officiel de la Formule 1, formula1.com, avec des propos. Alors, on a eu du mal à choisir et on aurait pu vous faire un véritable verbatim. On a fait un choix. Julien, est-ce que tu peux nous lire les propos de Laurent Rossi, qui parle de son équipe et qui parle tout particulièrement d'Otmar Szafnauer, qui est donc le team principal de cette équipe.
Alors, il dit « S'ils échouent en redressant la barre, il y aura des circonstances atténuantes et ce sera de bon augure pour l'avenir. Si ce n'est pas le cas, c'est la règle des affaires, il y aura des conséquences et je n'attendrai pas la fin de l'année. »
Alors, et je vous dis, ça n'est qu'une partie des choses, parce qu'il y a eu, Otmar Szafnauer ne fait pas l'équipe tout seul.
Disons qu'il a envoyé le même message plusieurs fois, mais sous différentes formes.
Exactement.
Et tout assez virulente.
Voilà. Et tout assez punchy, effectivement, de la part de Laurent Rossi. C'est musclé, et c'est presque étonnant dans la forme et dans le moment.
Oui, c'est presque étonnant, parce que le Grand Prix de Miami est plutôt bon pour Alpine.
C'est-à-dire qu'on a connu pire.
C'est le meilleur week-end depuis le début de la saison d'ailleurs. Il y a eu une bonne qualification de Gasly. Il y a eu une qualification moyenne d'Ocon, mais il est piégé par le crash de Leclerc et Ocon était persuadé de pouvoir faire mieux. Et puis il y a 8 et 9 en course. Finalement, c'est le mieux que pouvait espérer Alpine parce que Mercedes, Ferrari, Red Bull sont intouchables. Et il y a ce problème qui s'appelle Aston Martin, ouais, qui est tout simplement l'écurie qui a le mieux travaillé avec Red Bull, évidemment, durant l'hiver. Donc, Alpine pourra difficilement faire beaucoup mieux que ce qui s'est passé ce week-end. Et effectivement, quand on fait ce constat-là et qu'à côté, on voit l'interview, les deux interviews, parce qu'il en a donné une aussi à Canal+, de Laurent Rossi, on se dit que certains au sein de l'écurie vont passer des semaines un petit peu difficiles.
Oui, s'ils les passent, ces semaines. S'ils parce que passent. Là, c'est presque le sentiment qu'on a. C'est qu'on est en train de préparer le terrain. C'est étonnant dans le timing parce que, comme tu le dis, en fait, les Alpines ont égalé leurs meilleurs résultats. Ils ont marqué 6 points, 8e et 9e. C'est le même résultat qu'en Arabie Saoudite. Entre-temps, il y a eu le crash des deux voitures en Australie. Il y a eu l'Azerbaïdjan, où là, ça a été quand même
très
assez catastrophique, avec des voitures qui étaient mal préparées pour entrer en piste, d'où le terme dilettante. Je veux dire, quand un manager prononce ces mots-là, quand même, ça pèse lourd, ça pèse très très lourd. Alors, est-ce que c'était à la fois pour essayer de dire aux responsables, et je pense à Luca de Meo, non, mais vous inquiétez pas, je tiens la barre, je tape du poing sur la table, ça va aller, parce que c'est tout à fait possible. On imagine bien qu'il y a eu des échanges entre Katzieux, entre Otmar Szafnauer et Laurent Rossi. On ne s'exprime pas comme ça dans les médias sans en avoir parlé avant.
Oui, et puis je pense que de toute façon, la présence de Luca de Meo à Miami dit tout aussi. Il faut quand même rappeler une chose, Laurent Rossi, c'est le PDG d'Alpine, ce n'est pas le PDG d'Alpine F1.
Ouais.
Donc, l'écurie de Formule 1, bah, quelque part, elle a été construite par lui. C'est lui qui a choisi les hommes, c'est lui qui a choisi Szafnauer, c'est lui qui a fait le ménage aussi quand il a pris les commandes, il était responsabilisé sur ce plan-là. Donc, il a aussi une part de responsabilité.
C'est clair. En fait, ce qu'il dit de Otmar Szafnauer, ça peut s'appliquer à Laurent Rossi aussi. C'est ça qui est toute la difficulté d'un manager, c'est de savoir si on fait sauter un fusible, à quel moment on finit par être soi-même le fusible.
Tout à fait. Et je pense qu'il a aussi parfaitement conscience de ça. Mais quelque part, le seul levier qu'il a activé sur le moment, bah, c'est celui-là, c'est de mettre le gros coup de pression. Alors, est-ce qu'il fallait le faire publiquement ? J'imagine qu'il l'a aussi fait en privé, tout à fait, mais est-ce qu'il fallait aussi le faire publiquement ? J'ai un petit peu plus de doutes, parce que là, grosso modo, soit il démobilise complètement les têtes pensantes et même les ingénieurs de l'écurie, soit ça leur met un petit coup de pied au cul et ça remobilise tout le monde. Je trouve que c'est quand même une grosse prise de risque. Effectivement, en fait, on n'avait pas eu vraiment de réelle expression de ce que vaut Alpine, de ce que valent les pilotes et de ce que vaut cette monoplace. Là, à Miami, on a eu vraiment un bon exemple, et peut-être qu'il aurait fallu attendre d'avoir ce contexte-là pour agir.
Le fait qu'il l'exprime publiquement, moi, j'y vois éventuellement une autre signification. C'est peut-être un signal de fumée envoyé aussi à celui qu'on pourrait éventuellement placer à la place de Otmar Szafnauer, un Italien qui a été démis de ses fonctions il y a quelques mois, qui a encore une cote, une belle cote dans le paddock de la Formule 1, hein, puisqu'il y a plusieurs équipes quand même qui se disent c'est un gros potentiel. Je parle évidemment de Mattia Binotto, l'ancien patron de la Scuderia Ferrari. Est-ce qu'il n'y a pas là, dans un coin de la tête de Laurent Rossi, l'idée d'aller chercher un Mattia Binotto pour le mettre à la tête de Alpine? Évidemment, Binotto reste sur une forme d'échec, remercié par Ferrari. Il a quand même été à l'origine de quelques belles réussites aussi à la Scuderia.
Bah, disons qu'avant qu'il prenne les commandes de la Scuderia, c'était quasiment l'ingénieur parfait, Mattia Binotto. Il a un vrai vécu, il a une vraie expérience, il a connu l'époque Schumacher. C'est pas n'importe qui, même si il y a eu cette saison 2022 catastrophique sur le plan de la gestion, et que quelque part la monoplace qui est celle d'aujourd'hui chez Ferrari, bah, c'est aussi un petit peu sa responsabilité, parce qu'elle n'a pas été créée au mois de janvier, cette voiture. Mais ce qui est sûr, c'est que Szafnauer est en sursis, pour ne pas dire complètement sur la sellette, qu'il faudrait, je pense qu'il a un échantillon, disons, de 3 ou 4 Grands Prix, où vraiment Alpine va devoir maximiser tout ce qu'elle peut maximiser pour sauver la tête de Szafnauer. Et quelque part, Binotto, est-ce que c'est surprenant ? Ben non, puisque il n'y a personne sur le marché, à part lui. Quand on voit ce que coûte en négociation les personnes qui sont capables de prendre la tête d'une écurie, le bon exemple, c'est Laurent Mekies, avec les négociations entre Red Bull et Ferrari pour le placer chez AlphaTauri. Et bah, on se dit que finalement, un membre qui a cette expérience-là, qui a déjà été à la tête d'une grande écurie, et bah, ça compte, tout simplement.
Exactement. Tu parlais de délai. Là, on va voir. Il y a une séquence qui va nous assez dense maintenant, qui va démarrer donc à Imola.
Mais d'ailleurs,
Imola.
Je pense que l'échantillon, c'est ça. C'est Imola jusqu'à la fin du mois de juin, grosso modo.
Ah ouais. Moi, je mettrais un petit peu plus quand même. Mais je mettrais jusqu'à la trêve estivale. C'est pas Francorchamps.
Optimiste.
Ouais, ok. Voilà, c'est vous dire un petit peu l'état d'esprit dans lequel on est. Hein. C'est bon, moi je donne jusqu'à fin juillet à Otmar Szafnauer.
Pour... Je donne un mois de moins. Voilà, tout simplement.
D'accord, ok.
Pour revenir à... Parce qu'il a aussi dit d'autres choses sur notamment le plafond budgétaire. Il dit, grosso modo, en termes de dépenses, Alpine ne peut pas faire mieux. Alpine est déjà au plafond. Alpine a déjà fait un plan sur 10 ans avec des très gros moyens pour atteindre son objectif qui, rappelons-le, était cette année de finir quatrième en se rapprochant de la troisième place. On sait déjà que ce sera impossible. parce qu'Aston Martin, Aston Martin. Et donc, ils disent, si en termes de moyens, on peut pas faire plus, eh ben, le problème, ce sont les hommes. Le problème, ce sont les hommes, mais encore une fois, il a une part de responsabilité là-dedans parce que c'est lui qui a choisi Zaffnauer, même si Zaffnauer ensuite a construit l'équipe. Et puis les hommes, ce ne sont pas des perdreaux non plus. Pat Fry, Alan Perman, ce sont des ingénieurs qui sont là depuis des années, qui ont eu des succès par le passé. On peut aussi évoquer les pilotes. Est-ce qu'il faut parler de la responsabilité des pilotes depuis le début de la saison ? Personnellement, j'ai plutôt tendance à penser que pas encore, mais que s'ils avaient un joker et demi sur l'ensemble de la saison,
ils l'ont déjà utilisé. Ça, c'est clair.
Alors que lui, pour le coup, a plutôt tendance à mettre les pilotes en dehors de l'équation. Il y a quand même beaucoup de choses qui posent problème. On peut parler de David Ebrivio, que tu connais bien, Gilles, qui est arrivé en provenance du MotoGP, où il a réussi des exploits.
Ah, il a fait gagner Suzuki face à Honda, Yamaha, Ducati.
Juste avant d'arriver chez Alpine. Au final...
On rêvait du même scénario, en fait. J'ai le sentiment qu'avec David Ebrivio, pardon, je te coupe, on a acheté une sorte de totem.
Oui.
Mais ça ne marche pas comme ça, et l'expérience n'a pas fonctionné. Et je pense que David Ebrivio, au terme de son contrat avec Alpine, retournera... soit en MotoGP, soit il prendra sa retraite, mais la greffe n'a pas pris, en tout cas.
Mais il est encore là.
Oui, oui.
Et donc, quelque part, l'argent qui a été dépensé pour faire venir David Ebrivio, bah, c'est de l'argent que vous ne mettez pas sur un autre ingénieur. Alors, je ne dis pas que David Ebrivio est payé aussi cher qu'Adrian Newey.
Je ne crois pas.
En tout cas, j'espère pas, pour Alpine. Mais ça compte, et ces choix-là pèsent. On peut aussi revenir sur l'affaire Piastri. Tout ça montre globalement qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond chez Alpine. Et que si, en termes de performance, la voiture est bonne, c'est que, quelque part, les ingénieurs qui sont à la tête de sa conception sont plutôt à la hauteur.
Après, c'est une histoire de montée en régime. Là, clairement, on a loupé un rapport. Hein. On avait gagné le duel face à McLaren l'année dernière pour être quatrième au classement des constructeurs. On rappelle, hein, Luca De Meo avait dit « Alpine doit viser le titre en 2026 ». Ça commence à arriver très très vite, hein, le fameux L-Plan. C'était ça. Là, le problème, c'est qu'on a loupé un rapport et qu'on s'est fait doubler par Aston Martin. Donc, ça ne plaît pas. J'ai le sentiment quand même que Laurent Rossi parle autant à Otmar Szafnauer qu'au board de Renault et d'Alpine, en disant non, mais on va y arriver, quitte à mettre, bien sûr, de la pression sur l'équipe d'exploitation de chez Alpine, et à voir maintenant cette histoire de Mattia Binotto. Est-ce que ça peut être une situation, voilà, on vous a donné notre sentiment début, toi tu dis fin juin, donc pour
moi pour le sort de Szafnauer, je dis fin juin,
ouais. Ok, moi je dirais plutôt trêve estivale, mais faut pas perdre de temps parce que en fait, à partir de la trêve estivale, on commence à travailler sur la voiture de l'année prochaine. C'est sans doute ce que paye aujourd'hui Alpine. Pris dans son duel avec McLaren, on a peut-être mis un peu plus de ressources sur la deuxième partie de saison 2022 chez Alpine et chez McLaren. D'ailleurs, hein, le parallèle est assez saisissant entre les deux équipes qui sont à égalité de points après avoir été vraiment à touche-touche l'année dernière. On a peut-être mis beaucoup de ressources sur la fin de l'année 2022 et ces ressources, elles manquent un peu là en 2023.
Et d'ailleurs, moi, je trouve qu'il y a un vrai point commun entre McLaren et Alpine. C'est que chez McLaren, vous avez Zak Brown, qui est le PDG de McLaren, qui lui a décidé de déléguer quelque part et de se mettre un tout petit peu en retrait de l'écurie, même s'il est toujours très présent. Rossi, Laurent Rossi, lui, est beaucoup plus loin de l'écurie. Quelque part, quand on voit le rôle qu'a Toto Wolff, qui a un rôle...
Il est sur le muret.
Il est sur le muret.
Enfin, il est dans les stands, pardon.
Et puis, il est actionnaire de Mercedes. Ouais, donc, voilà, je pense qu'il y a un vrai lien de cause à effet là-dessus. Pour revenir sur Szafnauer, il n'a pas fait que des mauvaises choses non plus. Si Aston Martin en est là, c'est pas uniquement grâce à lui, mais il a quand même eu un rôle là-dedans. Maintenant, le problème, je pense, de Otmar Szafnauer, c'est que aujourd'hui, pour être un bon team principal, il faut être à la fois ingénieur, à la fois excellent communicant, à la fois gestionnaire, à la fois manager. C'est très compliqué. Et quand vous n'avez pas toutes ces casquettes-là, que vous n'êtes pas Toto Wolff, Christian Horner ou même Fred Vasseur d'ailleurs, forcément, vous prenez un petit peu plus la marée.
Ouais, c'est clair. C'est clair. Alors, il a répondu, Otmar Szafnauer, en disant, j'ai pas lu ce qu'on me rapporte des propos de Laurent aussi. On va voir comment ça évolue. Mais clairement, ça sent quand même pas tout à fait très bon. Et pour en terminer, attention quand même à cette histoire. Je disais tout à l'heure que pour moi, Laurent Rossi essaye d'envoyer un petit signal à Mattia Binotto en disant vraiment, on prépare le terrain. Ouais, alors attention, il vaut mieux avoir des intentions facilement lisibles et très très explicites, parce que sinon on se retrouve avec un Piastri qui part chez McLaren et un Alonso qui part chez Aston Martin. À vouloir courir de lièvre, on finit par être le pigeon.
Alonso qui prend un malin plaisir à taper sur Alpine.
Ah oui, depuis, c'est magnifique.
Depuis plusieurs semaines.
Ouais. Là, il a dit quoi là, eux, leur moment, c'est les essais libres.
Les essais libres, et puis il a un petit peu tapé dessus après la course aussi dimanche. Bref, c'est du Fernando Alonso.
Ça me fait penser au déchirement entre Gérard Piquet et sa chérie Shakira. On étale un petit peu ses états d'âme en place publique.
Pour revenir sur Aston Martin, qui est quand même le plus gros problème d'Alpine aujourd'hui, faut quand même se rappeler que Aston Martin n'est pas à 100% de ce qu'elle souhaite faire en Formule 1. Il y a une toute nouvelle usine qui va arriver, une toute nouvelle soufflerie également. Aston Martin risque de peser très très lourd dans les prochaines saisons. Alpine,
c'est ça qui fait désordre, en fait, vis-à-vis de Renault, du groupe Renault, c'est que d'un seul coup, on se fait déborder par une équipe qui n'était pas sur les radars l'année dernière. Et voilà donc ce qui a poussé Laurent Rossi à mettre un gros coup de pression.
Et dernière chose, tu m'as lancé là-dessus et après j'arrête, promis, faut quand même se souvenir des enjeux qu'il y a derrière. L'implication d'Alpine en Formule 1, ça a aussi des enjeux pour le parc automobile mondial, qui a un enjeu marketing et commercial, notamment aux États-Unis, qui est considérable, que pour l'instant, ça ne se passe pas très bien en Formule 1, et forcément, ça ne fait pas une bonne pub.
On va voir ce que ça va donner dans les prochaines semaines. On suivra ça de près, et on vous en parlera dans les fous du volant. Écoute, je crois qu'on a fait le tour, mon cher Julien. Oui, on a été bavard, évidemment, comme d'habitude, avec donc une petite... Un petit week-end de relâche là, avant de prendre la direction d'Imola. La semaine prochaine, on va se retrouver. On pourra commencer à anticiper ce rendez-vous en terre italienne.
Avec beaucoup d'évolutions programmées.
Oui, exactement. Encore chez Ferrari. On va voir quelle tête aura la Mercedes aussi du côté de Imola. Est-ce qu'elle aura des pontons? Est-ce qu'elle en aura toujours pas? Ça, c'est vraiment le serpent de mer de chez Mercedes. Ce podcast, Les Fous du Volant, qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify, en passant par Acast ou par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et aussi à vous abonner. Et de cette manière, vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. Mon cher Julien, ça a été un plaisir.
Plaisir partagé.
On va remercier aussi Simon Farvac qui veille au bon déroulement de l'enregistrement.
Et Quentin Guichard pour tout l'aspect visuel.
Exactement, et on se retrouve la semaine prochaine avec nos abonnés.
Tout à fait, et ce sera ce qu'il y a.
Exactement, et d'ici là, on coupe le contact.